Radio Kapi.
Le journal grâce à Mzati. L'Union européenne encourage les Rwandais à continuer de piller les richesses de la RDC car ce pays ne regorge pas de minerais. C'est la réaction du vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères après la signature d'un protocole d'entente entre le Rwanda et l'Union européenne sur le développement des chaînes de valeur durables pour les minerais critiques et stratégiques. Mais l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC dit apporter la lumière à ce sujet, à suivre dans quelques instants. Les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont envahi des centaines de maisons à Kalemie, poussant ainsi les habitants à abandonner leurs maisons pour se réfugier ailleurs. Notre invité est Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il parle des arrestations des activistes des droits de l'homme, des mouvements citoyens ainsi que des journalistes. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des réactions continuent de tomber après la signature le 19 février dernier par le Rwanda et l'Union européenne d'un protocole d'entente qui vise à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les minerais critiques et stratégiques. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères estime que cet accord est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas des minerais. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizinabizana.
Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, dit attendre des explications des autorités de l'Union européenne pour ce comportement qualifié d'ambigu. Surtout que le sous-sol rwandais ne regorge pas de ressources naturelles recherchées actuellement dans le monde marqué par une transition énergétique dans l'industrie minière. Si cet accord irrite davantage la partie congolaise, c'est parce que les autorités de l'Union européenne ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise dans la partie est du Congo ainsi que de l'exploitation illicite de ces richesses naturelles et de renforcer la coopération de l'Union avec elle, précise le vice-premier ministre Lutundula. Autre réaction, c'est celle de Denis Mukwege pour le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023. Cet accord met en exergue une politique de double standard qui mine la crédibilité des institutions internationales. Les réactions des acteurs citoyens abondent également dans le même sens. Justicia Aisbel va même plus loin en invitant les ONG des pays membres de l'Union européenne à tout simplement saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin d'obtenir l'annulation de ce protocole d'accord entre l'exécutif européen et le Rwanda.
Cynthia Bachizi Nabizana, à ce sujet, selon Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, ce protocole marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier la transparence et la traçabilité de tout commerce et des minerais stratégiques. Il a déclaré aujourd'hui ici à Kinshasa dans une interview exclusive à Radio Kapi. Nicolas Berlanga Martinez est au micro de Paul Matendo.
Ce protocole d'entente, ce qui signifie... C'est la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ces protocoles d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est dans les... protocole d'entente qui parle beaucoup sur la due diligence, c'est-à-dire la transparence et la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques. Je pense que ça va pouvoir nous aider, pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qui s'agit des commerces illicites des minerais stratégiques.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, un calme précaire s'observe ces jeudis sur toutes les lignes des fronts au nord et au sud dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Ce, après les combats survenus mercredi matin aux environs de la colline Ndumba, surplombant la cité de Chacha et ses environs dans le groupement de Mufuni Shanga, territoire de Masisi. Les sources dans la zone évoquent l'arrivée massive depuis hier dans la mi-journée des renforts des rebelles qui se cacheraient derrière la colline Kihuli. En Nord Kivu toujours, améliorer la sécurité alimentaire des 1860 ménages des déplacés et des familles d'accueil les plus vulnérables à Kanyabayonga, c'est le but du projet d'appui en sécurité alimentaire lancé mercredi dans cette cité par le Centre de développement rural de Kibututu, CEDERU. Financé par le Fonds humanitaire de la RDC pour une durée de 6 mois, ce projet veut aussi améliorer les moyens d'existence d'urgence des populations vulnérabilisées par la crise M23 dans la zone de santé de Kibirizi, dans les territoires de Rutshuru. L'ingénieur Paul Muhassa, coordonnateur du Centre de développement rural de Kibututu, revient sur les activités de ce projet. Il est joint par Rosalie Zawadi.
Ce projet vient répondre aux difficultés que traversent actuellement les déplacés de l'aire de santé de ce promis Bitongi. Des enquêtes réalisées, il a été prouvé que 80% des ménages des déplacés n'ont pas accès à la nourriture. Et le score de consommation alimentaire pauvre estimé à 83%, mais aussi il a été trouvé que au niveau du centre de ce promis, 270 cas de malnutrition globale ont été enregistrés, dont 27 cas de malnutrition sévère pour les femmes enceintes. Ce projet vient répondre aux besoins à vivre par les caches et aux moyens d'existence par la distribution des intrants agricoles et accompagnement technique pour la période de février à juillet. Ceci va permettre de relever la situation de la sécurité alimentaire auprès de ces déplacés, mais aussi auprès des familles d'accueil qui les ont accueillis.
Comme annoncé dans les titres, à Kalemie, les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont envahi des centaines de maisons. Conséquence, les habitants sont contraints d'abandonner leurs bâtisses pour aller vivre ailleurs. Chaque année, ces eaux s'avancent lentement vers certains quartiers de la ville de Kalemie. Cette situation trouble la quiétude des habitants. Un reportage signé Paul Munanga.
Les eaux qui s'avancent régulièrement ont inondé des bâtisses et même détruit certaines d'entre elles. Des témoins rapportent que ces maisons étaient à des centaines de mètres du lac lorsqu'elles étaient construites, mais au fil des ans, les eaux les ont rattrapées et même dépassées. De loin, on aperçoit des poteaux qui transportaient des fils électriques pour alimenter en énergie électrique les maisons. Mais ces poteaux sont désormais submergés par les eaux. Cette femme que nous avons trouvée dans une parcelle déjà à moitié inondée ne sait plus à quel saint se vouer. Les eaux du lac nous font sérieusement souffrir. Souvent, c'est au mois d'avril que ces eaux montent. Mais nous sommes surpris cette année que ce phénomène a commencé au mois de janvier. Nous ne savons plus ce que nous allons faire avec les enfants. Regardez là-bas comment nous avons bloqué ces eaux qui veulent avancer jusqu'ici. À Kilimali Nazer, un habitant des Daves, l'un des quartiers les plus exposés, témoigne.
En 1968-1971, selon l'histoire, toute l'artère principale de la ville était occupée par les eaux du lac Tanganyika et la rivière Lukuga. L'eau s'est retiré après. Nous savons même après 20 ans que l'eau peut se retirer, mais en attendant, les gens ont perdu des maisons.
Certaines sources indiquent que les autorités du pays ont établi un projet d'érection des digues au bord du lac pour empêcher l'avancée des eaux. Mais ce projet demande d'énormes moyens financiers, indiquent les mêmes sources. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Sud Kivu, reprise ce jeudi des activités parlementaires à l'Assemblée provinciale. Cela après plus de 3 semaines sans activité à la suite du mouvement de grève des agents administratifs de cette institution. Ainsi, tous les députés provinciaux nouvellement élus sont appelés à se faire enregistrer à partir de ce jeudi en attendant la convocation de la première plénière. Emmanuel Elamejua Kabidi.
La reprise des activités à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu est le fruit de l'issue favorable des négociations entre les agents grévistes et le gouvernement provincial d'une part et avec les nouveaux députés élus d'autre part. Ces derniers s'engagent à recouvrer tous les arriérés des salaires des agents administratifs dans un bref délai. Ainsi, par son communiqué signé le 21 février, le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale appelle à la reprise immédiate des activités parlementaires. Cela commence par l'identification et enregistrement, dès ce jeudi, des députés provinciaux nouvellement élus. Cette reprise des activités tant attendue devra accélérer la mise en place des bureaux d'âge et définitifs pour préparer les élections sénatoriales et celles des gouverneurs de province. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu compte 48 députés provinciaux, dont 44 élus et 4 chefs coutumiers cooptés. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Merci de nous écouter à Kayuyu, dans la province du Maniema, où la CENI a clôturé lundi dernier l'opération de sélection des chefs coutumiers qui devront être cooptés pour compléter le nombre de 22 députés à l'Assemblée provinciale. Étant tous des hommes, l'ONG de défense des droits de l'homme, Hakiza Binadam Maniema, plaide pour la cooptation des femmes à l'organe délibérant de cette province pour respecter le principe de parité hommes et femmes. Raphaël Upelele Lokenga, secrétaire exécutif de l'ONG Hakiza Binadam, le dit à Florence Kizalunga.
C'est avec beaucoup de regrets que nous avons suivi la CENI qui se disait être à la fin du processus de sélection, de cooptation des chefs coutumiers. Et puis les deux chefs cooptés sont des hommes. Et puis ça contraste avec la loi électorale, avec la constitution. Et nous allons nous retrouver avec une assemblée monolithique, comme on le dit. Il n'y a que des hommes dans ce cas-là. Ça contraste avec le principe de la parité hommes et femmes. Ça contraste avec la loi. Et la mise en œuvre de la parité hommes et femmes, la constitution est énervée. Voilà pourquoi je préfère que toutes les femmes puissent se mobiliser comme une seule femme ou un seul homme pour dénoncer et puis attaquer cette décision parce qu'elle viole manifestement la loi. Si les femmes n'ont pas eu la chance d'être élues, mais dans la cooptation, eh bien on devait tout faire pour qu'on puisse trouver ne fût-ce qu'une seule femme à l'Assemblée provinciale. Et elles sont nombreuses, les chefs coutumiers de femmes. Voilà pourquoi nous dénonçons et au fort cette attitude de la CENI, pourquoi pas.
Par ailleurs, une délégation suédoise, conduite par la chef des bureaux de l'UNICEF Lubumbashi, a visité le centre de traitement des choléra de la commune de Kenya. Objectif visé, s'enquérir de son fonctionnement et de la prise en charge des malades. Jean Gandou nous présente ce centre situé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de la commune de Kenya.
Le centre de traitement de choléra de la commune de Kenya accueille des malades venant de plusieurs coins de la ville. Il compte 60 lits repartis dans 5 tentes. Il y a des tentes pour hommes, femmes et enfants. Plusieurs lits ne sont pas en bon état. Pour son bon fonctionnement, il reçoit des intrants du gouvernement et des partenaires dont l'UNICEF, l'OMS et l'ONG International Médecins Sans Frontières. Docteur Aimé Kibwe, médecin chef des zones de santé de Kenya, dresse le bilan de l'épidémie depuis la notification du premier cas vers la fin de l'année dernière.
À ce jour, on a déjà notifié cette 23 cas et 42 décès dans 11 zones de santé. On a eu à notifier 257 enfants dont 157 élèves.
Pour sa part, la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi s'est dit satisfaite de l'appui de son institution dans cette lutte. Annie Choa.
Nous sommes tout à fait ravis de cet appui, bien que ailleurs il y a encore des besoins. Il faut quand même commencer quelque part pour éradiquer cette épidémie.
Au nombre des besoins pressants, il y a la construction du centre en matériaux durables et les remplacements des lits. En outre, ce centre connaît beaucoup de difficultés pour effectuer les enterrements dignes et sécurisés des victimes de l'épidémie, indique Dr Aimé Kibwe. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La ministre sénégalaise de la Justice confirme la libération de 344 personnes depuis jeudi 15 février 2024. Des mesures destinées à apaiser l'espace public alors que le pays est toujours dans l'attente d'une date pour la présidentielle, initialement prévue le 25 février. Le collectif des détenus assure, contrairement à la ministre, que ces personnes étaient des prisonniers politiques. Près de 90 000 salariés des transports publics municipaux en Allemagne sont appelés à faire grève par vague entre fin février et début mars à l'appel du syndicat des services Verdi dans un conflit lié aux conditions de travail. Après une première grève le 2 février qui n'a rien donné, il faut à nouveau faire pression sur les employeurs pour faire avancer les négociations, a déclaré Christine Bellet, vice-présidente de Verdi, dans un communiqué. Ces conflits s'ajoutent à d'autres dans les transports ferroviaires et aériens du pays.
L'invité.
C'est Jean-Claude Katende, président national de l'AZADO. Il parle des arrestations des activistes et des droits de l'homme, des mouvements citoyens ainsi que des journalistes. Jean-Claude Katende encourage le président de la République à faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir de ses droits. Suivez-le dans cet entretien avec Paul Matendo.
Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Vous dénoncez des arrestations que vous qualifiez d'arbitraires. De quoi s'agit-il exactement ?
En fait, la conférence de presse que nous avons organisée aujourd'hui fait suite aux arrestations des jeunes des mouvements citoyens qui avaient eu lieu il y a quelques semaines, qui ont été arrêtés arbitrairement, mais aussi qui ont été victimes des actes de torture. Nous disons que ce sont des arrestations arbitraires parce que ces citoyens n'ont rien fait et ont été arrêtés dans les conditions telles que leur dignité humaine n'avait pas été respectée et ils ont été victimes des actes de torture de la part des agents de l'ANR. Et nous avons organisé la présente conférence de presse pour dire aux autorités de la République démocratique du Congo que les organisations des droits de l'homme et les mouvements citoyens sont fatigués de voir que la Constitution par rapport à eux n'est pas respectée, la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme n'est pas respectée, les actes qui ont été posés sont des actes que nous dénonçons et qu'ils doivent prendre des mesures, parce qu'on est en démocratie, de garantir en fait à chacun de nous d'exercer son travail dans les conditions qui protègent sa personne, sa dignité et ses droits.
Vous êtes fatigué de voir que la Constitution n'est pas respectée. À ce jour, vous enregistrez combien de cas d'arrestation?
Depuis les débuts de l'année, il faut dire qu'ici à Kinshasa, celles que nous dénonçons concernent évidemment les personnes les plus connues, comme Fred Bahoma et Bienvenue. Mais chaque jour ici, je vous dis que dans les communes périphériques de la ville de Kinshasa, on arrête les gens tous les jours pour rien. Et nous constatons que l'objectif de la police et de certains services de l'État, c'est tout simplement d'arrêter les gens et à la fin leur demander de payer des pénalités. En fait, ces services commencent à agir comme si elles étaient des services commerçants.
Vous avez aussi fait mention d'une milice qui serait impliquée dans ces cas d'arrestation. De quelle milice s'agirait-il ?
Non, il faut vous rappeler que lors des élections, il y a eu quand même des associations appartenant à certains partis politiques qui se sont comportées comme des véritables services de l'État, arrêtant, frappant les gens, utilisant même ce qu'on appellerait les armes blanches contre certains citoyens. Et nous pensons que ces associations liées aux partis politiques au pouvoir sont connues de tout le monde. Et tout ce que nous demandons est que ces associations se comportent comme des associations de la société civile qui respectent les lois de la République.
Vous parlez également de la loi portant protection des activistes de droits de l'homme. Pensez-vous que cette loi est suffisamment vulgarisée?
D'abord, il est important de souligner le fait que le président de la République a bien fait de publier cette loi. C'est une loi qui n'a pas encore 4 mois. Et nous pensons que c'est une loi très importante pour l'exercice du travail des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il revient à l'État et aux organisations de la société civile de faire en sorte que cette loi soit connue de tout le monde, parce que c'est aussi la base de notre protection et de protection de notre travail.
En gros, quelles sont les recommandations que vous formulez?
Je pense que nous avons affaire au président Tshisekedi, qui est un président qui vient, n'est-ce pas, de l'opposition, d'un parti qui a été victime de ce genre d'actes de torture, d'arrestations arbitraires, et nous pensions vraiment que les efforts allaient être faits pour que la dignité des citoyens, les droits humains soient respectés. Et dans ce sens, nous voulons encourager le président de la République et toutes les institutions à faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir de ses droits et que les agents de l'État qui se compromettent dans l'exercice de leurs fonctions par rapport aux journalistes, par rapport aux activistes de droits de l'homme soient punis conformément à la loi portant protection des défenseurs de droits humains.
Vous parlez du président qui est venu de l'opposition et qui a été victime de ces cas d'arrestation. Pensez-vous que maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y a pas de changement?
Fondamentalement, par rapport aux espoirs que nous avions fondés sur lui et sur son parti, je pense qu'on est en deçà.
Jean-Claude Katindé, merci.
Merci.
Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katindé, s'entretenait avec Paul Matendo. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision éditoriale de Pele Kipela Mondo. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde. Merci d'avoir écouté ce radio-journal que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net. Au revoir.